Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà une salutation pascale qui est entrée dans la tradition de l'Église depuis des siècles. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia! Il est vraiment ressuscité. C'est une expression de joie, cette salutation. Cette salutation, elle est censée venir du très fond de nos entrailles, du très fond de notre humanité. Le Seigneur est vraiment ressuscité. On devrait comprendre ce que ça signifie. Parce que sans la résurrection, la foi est vaine. Que serait la foi chrétienne sans la résurrection de Jésus-Christ? L'apôtre Paul l'a dit à plusieurs fois. Sans la résurrection, votre foi est vaine. Il a beaucoup parlé de la résurrection, énormément. Et il y a un chapitre en particulier où il traite de ce sujet, c'est 1 Corinthiens 15. Vous pourrez le lire à la maison, ce n'est pas le texte que nous allons prendre aujourd'hui. Mais à un moment donné, au verset 19, il dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, cette vie ici sur terre, sur le plancher des vaches, à l'horizontale, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si notre foi, elle se limite à ce que nous vivons, à notre perspective de vie jusqu'à notre mort, elle est vaine, nous sommes les plus malheureux des hommes et des femmes. Parce que la résurrection, elle a une autre dimension. Elle a une dimension verticale. Elle a une dimension qui dépasse la dimension terrestre, humaine. La résurrection a tout changé. La résurrection, elle transcende notre humanité. Qu'est-ce que ça veut dire transcender ? Elle dépasse. Elle dépasse de manière positive. Elle dépasse en amplifiant. La résurrection, c'est comme si elle amplifie notre humanité. Elle dépasse nos limitations humaines. Tout ce qui a été limitation depuis la chute, la résurrection vient dépasser cet état-là. Donc il nous mène dans une autre dimension et nous ne pouvons pas nous y mener nous-mêmes. C'est seulement la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus est vivant. Et si Jésus est vivant, après être mort, c'est que nous avons accès à cette vie-là. C'est que nous avons accès au ciel. C'est que nous avons accès au domaine spirituel. Pas juste le ciel tout en haut qu'on n'arrive pas à voir, là où c'est bleu ou bleu foncé, ou même la nuit, non. Cette atmosphère spirituelle qui nous entoure, qu'on ne peut pas voir avec les yeux, mais qu'on peut sentir avec notre esprit et qu'on peut expérimenter. La résurrection, c'est le centre de notre foi. Et pourtant, la résurrection, elle a suscité, et elle suscite encore bien des résistances. C'est comme s'il y a quelque chose qui venait heurter un truc en l'homme, un truc en l'être humain. Il y a quelque chose qui vient déranger. J'ai donné le titre à ma prédication, une résurrection qui dérange ou qui transcende. Et autant vous dire que ça a bataillé. Et je crois que ça bataille encore. Je n'avais pas forcément envie de venir ce matin. Je me suis dit, mais pourvu qu'on soit aujourd'hui à midi et demi. Ça a bataillé, mes amis. Ça a bataillé parce que j'avais envie de commencer avec Matthieu 28. C'est la résurrection, Jésus est sorti du tombeau. Et je suis restée crochée sur un texte qui vient juste avant. Et je n'ai pas réussi à me décrocher de ce texte. Et ce texte, il parle de résistance. Et je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi je dois parler de ça ? C'est vraiment étrange. Dans l'évangile de Matthieu, la résurrection, elle est entourée par deux textes de résistance. Et je crois que ça nous parle aussi à nous, même si à l'époque c'était d'autres acteurs. Mais je crois que ça vient rechercher des choses en nous parce que nous n'avons pas forcément compris ce que c'est que la résurrection ou que nous avons besoin de vivre une dimension supplémentaire, un élargissement, une transformation. Nous sommes dans Matthieu 27, à partir du verset 62. Jésus, on l'a entendu, on en a parlé ce matin, on a entendu l'histoire de la Passion vendredi. Jésus a été mis au tombeau, Jésus a été crucifié, il est mort. Il a été mis dans un tombeau, creusé à même le roc, et une énorme pierre a été mise devant l'entrée, devant l'ouverture de ce tombeau. Impossible de la bouger par un seul homme. Jésus est cloîtré, enfermé dans ce tombeau, mort, bien mort. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit « Quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts !» Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez gardez-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Les chefs des sacrificateurs ou les chefs des prêtres et les pharisiens, c'est-à-dire les autorités juives, ce sont ceux qui ont autorité sur le peuple, ce sont ceux qui ont le pouvoir sur le peuple, ce sont ceux qui ont le prestige, c'est ceux qu'on salue quand ils se déplacent dans la rue, c'est ceux qui influencent la société, c'est ceux qui font la loi. Même si la loi existe, ils ont une manière de l'interpréter un peu à leur sauce. Ces hommes sont à l'origine, mais pas seulement, de la mort de Jésus. Et Jésus est mort. On pourrait se dire, mais ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Mais non, ça ne leur suffit pas. Ils ont déjà mis Pilate dans une situation, mais terriblement dérangeante. Et ils en rajoutent une couche. Ils vont le retrouver, toujours à cause de ce même homme qui n'a rien fait, qui est mort, en lui disant, mais fais quelque chose, aide-nous à garder ce tombeau, sinon... Il y a encore les disciples qui vont venir voler son corps et puis dire qu'il est ressuscité. Il ne faut surtout pas que ces choses-là arrivent. Pilate, je pense qu'il en a jusque-là. Parce que je pense qu'il s'est rendu compte qu'il a fait quelque chose de mal. En même temps, même sans cet épisode, il était déjà mal barré, si vous me permettez l'expression. Mais ça lui en rajoute une couche. Il dit « Alors, allez-y, vous avez une garde ». C'est vrai qu'il n'est pas précisé ici s'il s'agit d'une garde romaine ou bien pas, mais vous savez, on est dans la fête de la Pâque. Et si on regarde dans Lévitique 23, où il y a toutes les fêtes qui sont expliquées, il y a toute la semaine des pains sans levain, et il y a plusieurs sabbats qui se succèdent. S'ils ne sont pas forcément appelés comme ça, ce sont des jours de sainte convocation où on n'a pas le droit de travailler. C'est pour ça aussi que les femmes n'ont pas pu venir au tombeau quand elles auraient voulu pour embaumer le corps de Jésus, à cause de ces sabbats. Alors, certainement que ce n'est pas une garde, les gardes du temple qui gardent le tombeau, parce que c'est le sabbat. Et là, c'est un travail de garder le tombeau. Certainement que c'est des gardes romains. Nous sommes sous occupation romaine. Et les gardes romains, ils sont... minimum 2 par 2, et il se relaye jour et nuit. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui s'endorme, il y a toujours l'autre pour lui donner du coude. Et ils ont juste un certain temps de veille, et ensuite ils se relayent pour avoir une garde efficace. Ce sont des gardes chevronnés. Ce n'est pas suffisant. Il faut encore sceller la pierre. Alors on pourrait se dire, ben, sceller la pierre, c'est quoi, mettre du ciment pour qu'elle ne bouge plus? Non, moi je crois qu'ils ont posé un sceau. Et peut-être même que c'était le sceau romain. Ça, on ne le sait pas. Mais ils ont mis un sceau, un scellé, pour que s'il y a quoi que ce soit qui bouge, on puisse dire « ils ont volé le corps ». Est-ce que les pharisiens, ces autorités, ces personnes-là sont incrédules par rapport à la résurrection de Jésus? Moi, je crois qu'ils ont la foi. Ils sont complètement dans la résistance et le refus de la résurrection. Moi, je crois qu'ils ont peur de la résurrection. Ils disent... Cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Dans l'évangile de Matthieu, il y a 3 passages où Jésus a dit explicitement qu'il allait ressusciter au bout de 3 jours. Matthieu 16, le verset 21. « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. » Chapitre 17, verset 23. « Ils le feront mourir et le 3e jour, il ressuscitera. » Matthieu 20, les versets 18 et 19. Et Jésus répondit, je ne suis pas dans le bon chapitre, 18 et 19 du chapitre 20 de Matthieu, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. » 3 fois, de manière explicite, Jésus annonce ce qui va se passer. Et moi, je crois que les pharisiens, ils ont peur que ça se passe. Ils ont peur de la résurrection. Le vol de Jésus, le vol du corps de Jésus, c'est pathétique. Impossible de rouler cette pierre. Si les disciples voulaient venir rouler cette pierre, mais il leur faudrait tellement d'aide pour pouvoir le faire, que ça se saurait, que ça se verrait. Et où est-ce qu'ils pourraient fuir avec ce corps dans les bras ou je ne sais quoi, sur un char ou je ne sais pas comment, pour essayer d'aller le planquer quelque part? C'est pathétique. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les disciples, ils ont abandonné Jésus. En plus de ça, les disciples, ils se planquent. Ils ne sont pas là. Parce qu'ils ont peur qu'il leur arrive le même sort, parce qu'ils n'ont encore pas tout compris. Alors imaginez ces pharisiens, ils sont dans le refus, ils sont dans la résistance. Il ne faut surtout pas que cette résurrection ait lieu. Pourquoi? Et c'est là que ça vient un petit peu titiller. Parce qu'il y a quelque chose qui vient nous déranger dans la résurrection. Il y a quelque chose qui vient toucher justement à notre humanité. Qu'est-ce que la résurrection pourrait changer en moi? Est-ce que ça pourrait me mettre dans une sorte, une forme d'insécurité? Il n'y a pas seulement les autorités juives qui ont été secouées par la résurrection. Les autorités romaines aussi, des païens, des gens qui n'ont pas la foi. Je crois que ça touche un peu toutes les sphères de la société. C'est un petit peu plus tard, dans Actes 26. C'est l'apôtre Paul qui est arrêté et qui est livré aux Romains. Et il se trouve à comparaître devant Festus et Agrippa, un gouverneur et un roi, entre guillemets. Et on lui donne la parole. Il peut présenter sa défense. Et il explique certaines choses, mais il donne une question stratégique. Une question rhétorique, c'est dans Actes 26, verset 8, Paul proclame « Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ?» Et après ça, il raconte son parcours. Il explique qu'il arrêtait les chrétiens, qu'il était allé poursuivre, allé persécuter, mais qu'à un moment donné, il a été arrêté, qu'il a vu une grande lumière, qu'il a rencontré Jésus. Et il dit, « C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » Deux points, c'est-à-dire que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Et à ce moment-là, il y a la tension qui commence à monter parce que ça commence à les titiller. Et Festus, qui est gouverneur, il lui dit, mais ton grand savoir te fait déraisonner, tu es fou, Paul. Mais qu'est-ce que Paul dit de particulier? Tout à coup, Festus ne supporte pas la parole de Paul. Il entend le mot « résurrection » et il ne supporte pas. « T'es fou !» Il ferme la porte. Il scelle la porte. Il met deux gardes devant la porte de son cœur. Alors Paul, il le laisse, puisqu'il a fermé son cœur. Il se tourne vers le roi Agrippa. « Je ne suis pas fou. » Et il se tourne vers le roi Agrippa. « En effet, ce n'est pas en cachette que ces choses se sont passées. Le roi est au courant de ces faits et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Vous imaginez un peu la tension? Il y a quelque chose qui dérange. Alors que ce soit les pharisiens, que ce soit les chefs des prêtres, que ce soit les autorités romaines, on peut discerner qu'il y a un refus de se réconcilier avec Dieu. Ce qui résiste dans le cœur, c'est une résistance à retrouver la communion perdus d'avec leur Créateur. Ils refusent de réaliser que par la résurrection, ils entrent dans une nouvelle dimension, connectés avec le ciel, en attendant la vie éternelle. La résurrection, ce n'est pas seulement pour l'avenir lointain, c'est pour l'avenir lointain. Et si on n'avait pas cette espérance, ça ne vaudrait pas la peine de vivre. Mais la résurrection, elle est déjà effective aujourd'hui, maintenant, ici. Alors c'est vrai qu'on pourrait accuser tous ceux qui résistent, tous ceux qui ont mis une pierre devant leur cœur, tous ceux qui ont posté des gardes, qui ont mis un sceau pour qu'au moins on ne vienne pas déranger. Mais nous, mais chacun d'entre nous, est-ce qu'il n'y a pas des moments où nous résistons à la réalité de Dieu? Est-ce que ça ne nous arrive pas d'être aussi dans cette dimension horizontale, droit devant, mes projets, mes ambitions? Moi, je me souviens, quand j'étais gamine, mon projet de vie, c'était de me marier, d'être infirmière, de faire des enfants, d'avoir une maison, et puis de vieillir en bonne santé avec mon mari, et puis voilà, jusqu'à ce que je sois rassasiée de jour et que dans ma blanche vieillesse, eh bien, je m'en aille tranquillement vers mon Seigneur. Quoi de plus normal? Mais ça, c'est pas faux, mais il manque une dimension. La dimension qui monte, qui manque, c'est d'être complètement rempli, de vivre cette expérience et cette réalité de la résurrection pour avoir une vie transformée qui marche sur la terre avec l'Esprit dans le ciel. C'est une vie remplie de Dieu qui fait que les choses célestes, je puisse aller les chercher dans le ciel pour les amener sur la terre. Participer au royaume de Dieu. Participer à amener le règne de Dieu sur la terre et me préparer pour le jour où Jésus reviendra. Parce que la mort et la résurrection de Jésus, ce n'est pas seulement « je suis pardonné de mes péchés, je suis sauvé ». C'est beaucoup plus que ça. Parfois, ce sont nos craintes qui nous empêchent d'accepter cette résurrection. on a peur de certaines choses. Alors ça turbine dans la tête et on tourne en rond, et c'est comme si ça anesthésie notre réflexion. On n'est plus capable de nous ouvrir et dire, Seigneur, mais viens, viens là-dedans, viens dans cette situation. Tu es où dans ma situation? Mais parfois, il y a encore autre chose qui fait qu'on met une pierre sur notre cœur. C'est le refus de la grâce. Le refus de la grâce pour soi-même. On est des fois très rapide à se condamner soi-même. Mais le refus de faire grâce. Si on avait conscience de ce dont nous avons bénéficié, si on avait vraiment conscience de ce qu'était la mort de Jésus et sa résurrection, on serait prompt à pardonner. On s'empêcherait de juger. On ferait grâce même à ceux qui nous ont fait tellement de mal. On aurait une autre mentalité, même dans le corps de Christ. Il y a une résistance. Et pourtant, la résurrection, elle transcende notre humanité. Elle nous dépasse. Elle dépasse notre réalité. Elle nous propulse vers des perspectives nouvelles. Heureusement, il y a quand même Matthieu 28 qui arrive. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Imaginez un petit peu la scène. Imaginez la scène. Tout à coup, le ciel se déchire et un ange descend. Il roule cette pierre et il s'asseye dessus. Comme pour narguer toutes les résistances à la résurrection. Et il a l'aspect d'un éclair. Vous arrivez à imaginer ça? Les gardes, ils sont tétanisés. Mais pas les femmes. Parce que cet ange, il a un pouvoir. Parce que cet ange, il est capable de rendre les gardes romains tétanisés de peur et des frêles femmes qui ne sont pas considérées avec sa main. C'est comme s'il les soutient, sa main invisible, c'est comme s'il soutient leur cœur pour qu'elles ne s'effondrent pas devant ce qu'elles voient. Et il fait tout ça d'un coup. Jésus n'est pas sorti par l'entrée. Une fois que la pierre a été roulée, pourquoi est-ce que l'ange roule la pierre? Ce n'est pas pour faire sortir Jésus. C'est pour dire aux femmes, mais allez voir, il n'y a personne. Il n'y a personne dans ce tombeau. C'est fait, il est dehors. Il y a un élément qui est tellement important et qu'il faut comprendre. Quand l'ange arrive, le ciel se déchire et l'ange descend. Et qu'est-ce qui se passe? Un grand tremblement de terre. L'arrivée de l'ange, la résurrection, c'est un phénomène cosmique. C'est-à-dire que ça dépasse l'humanité, mais ça touche aussi à la création. Tout est chamboulé. Quand Jésus est mort en croix, chapitre 27 de Matthieu, et voici, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Deux tremblements de terre que nous relate Matthieu. Un à la mort de Jésus. La terre tremble, le voile se déchire. Il y a un phénomène cosmique. La mort est terrassée, le péché est condamné. Et ça fait trembler toute la création. Quand Jésus est ressuscité, un nouveau tremblement de terre. pour dire que le ciel a rejoint la terre. Vous comprenez? La résurrection, ça a une ampleur qui nous dépasse, qui transcende notre humanité, qui transcende la création. La résurrection de Jésus, ça a tout bouleversé. Ça a bouleversé le monde. Plus rien n'a été pareil depuis la résurrection de Jésus. Imaginez ces femmes, elles reçoivent un message de l'ange. Deux femmes, toutes simples, qui n'ont aucune autorité. Dans une société où les femmes n'ont pas trop la place pour la parole, elles sont mandatées pour aller amener un message aux disciples. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit : Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit : Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Elles sont dans la crainte, pas dans la peur. Elles sont dans la crainte. Elles viennent de voir le ciel, si je peux dire comme ça. Elles ont vu un ange, elles ont vu la puissance de l'ange. Elles ont vu, et elles ont expérimenté, elles ont vu un tombeau vide. Elles comprennent sans comprendre, mais elles ont été en présence de la divinité, d'une partie de la divinité. On ne peut pas expliquer ça. Elles sont dans la crainte, dans le sens d'un profond respect, d'une sainte révérence. Mais en même temps, cette crainte respectueuse, se dire « mais Dieu est partout, mais Dieu il fait ce qu'il veut ». Regarde nos autorités, tout ce qu'ils ont mis en place pour empêcher quelque chose d'arriver. Et Dieu, il ouvre son ciel, il envoie un ange et tout est terrassé. Elles sont conscientes que sur leur chemin, Dieu peut intervenir. Qu'il peut intervenir n'importe où, n'importe comment, qu'il n'est pas limité. Elles sont dans la crainte respectueuse, en se disant, mais qui est-ce que je suis, faible créature? Et en même temps, une immense joie, une grande joie. Parce que tout à coup, elles comprennent qu'elles entrent dans une ère nouvelle et qu'elles ont été considérées. C'est elles qui sont les premiers témoins du tombeau vide. Un ange leur a parlé. Un ange les a mandatées pour aller donner un message. Elles ne sont plus dans une vie horizontale. Elles n'ont plus une perspective toute droite, droit devant. Non, elles commencent à être connectées avec le ciel. Elles sont toujours sur le plancher des vaches, mais elles ont une dimension qui est en train de se développer avec les réalités du ciel, avec les réalités de Dieu. Elles ne peuvent pas tout comprendre à ce moment-là. Mais imaginez la joie. Jésus n'est pas dans le tombeau, ça veut dire qu'il est ressuscité. Il n'y a pas d'autre alternative. Elle se précipite pour aller annoncer la nouvelle et en chemin, Jésus se révèle à elle. Tout à coup, elle voit Jésus, elle le touche, elle l'adore et il leur parle. Elles entendent le son de sa voix et en plus de ça, il les mandate pour aller dire, non pas ses disciples qui l'ont tous abandonné, qui sont planqués dans leur coin. Il est en train de dire, allez dire à mes frères. Première parole de grâce. Je leur pardonne. Ils ont été lâches. Il y en a un qui m'a vendu. Il y en a un qui m'a trahi, qui m'a renié 3 fois l'espace d'une soirée, alors qu'il disait qu'il était prêt à mourir pour moi. Il n'y en a pas un qui a pris ma défense. Ils étaient tous les jours avec moi, jour et nuit. Je les ai enseignés. Ils ont vu tout ce que j'ai fait. Ils ont vu la largesse, la générosité de mon cœur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont abandonné, pas un pour rattraper l'autre. Et Jésus fait grâce. Allez dire à mes frères. Il se met sur le même pied d'égalité. comme pour dire nous avons le même Père. Vous êtes mes frères. Faire grâce. Les deux femmes étaient messagères d'un ange. Elles deviennent témoins de Jésus-Christ ressuscité. Double message, double témoignage. Elles sont les premières qui ont vu Jésus dans son corps de gloire, même s'il n'était pas encore pleinement glorifié parce qu'il n'était encore pas monté vers son Père. Elles sont les premières à l'avoir vu. Alors pourquoi ? Pourquoi deux femmes ? Pourquoi pas les disciples ? Eh bien, je crois que ce n'est pas parce que c'est des femmes dans le sens genre féminin. Je crois que c'est parce que les femmes, elles représentent les personnes fragiles de la société. Les personnes qui n'ont pas forcément le droit au chapitre. Les personnes qui ne sont pas considérées. Mais ces femmes-là, depuis le début qu'elles ont commencé à suivre Jésus, depuis la Galilée, elles ont compris qu'elles avaient besoin de Jésus. Elles ont compris leur misère personnelle, leur misère humaine au niveau de la société, au niveau de leur place dans la société. Jésus leur a redonné leur place. Elles ont compris que sans lui, elles ne pouvaient rien faire. Il y en a une des Maries qui s'est assise pour écouter, pour boire les paroles de Jésus. Elle comprenait que ces paroles, elles étaient restauratrices, que c'était des paroles de vie. Ces femmes, elles ont assisté Jésus, elles l'ont accompagné, elles se sont nourries, abreuvées de ses enseignements. Elles ont recherché sa présence. Elles n'ont rien revendiqué. Rien. Elles ont juste accueilli Jésus, elles ont espéré en lui. Et c'est cette disposition de cœur-là qui fait que Jésus se révèle. Alors qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on peut s'identifier à ces deux femmes qui sont au tombeau. Et si on est une femme, on peut aussi s'identifier aux pharisiens. C'est une question de cœur. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et effectivement, dans les manuscrits, les vieux écrits des temps bibliques qui ne sont pas de la Bible, on retrouve ces témoignages de mensonges que les gardes ont dit qu'ils étaient endormis et que le corps de Jésus a été volé. C'est un message, on a des preuves que ce message-là, il a été dilapidé. Mais regardez ce qui est intéressant. Quelque part, c'est affligeant, parce que c'était tellement clair que cette résurrection avait eu lieu. Imaginez les gardes. Imaginez les gardes qui ont vu apparaître un ange qui a roulé la pierre, qui s'est assis dessus, qui avait l'air d'un éclair. Ils étaient tellement tétanisés de peur. Imaginez ce que les gardes sont allés dire. « Ah, au fait, il y a juste un ange qui est venu pousser la pierre et puis Jésus est sorti. » Mais non. Mais écoutez, on était là, mais c'est pas possible. Mais c'était qui ce gaillard que vous avez mis dans le tombeau? C'est impossible. Il y a une lumière qui est arrivée, ça nous a terrassés, on n'a rien pu faire. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Mais imaginez un peu, comment les gardes sont allés trouver les autorités juives en disant, mais là, ça nous dépasse ce qui s'est passé. Il n'y a pas un moment dans ce texte où les autorités juives mettent la parole des soldats en doute. Aucune incrédulité. Mais la réflexion, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour sauver la face? Comment est-ce qu'on fait pour continuer de s'endurcir? Ils se concertent et décident de donner une forte somme d'argent et de dilapider un mensonge. Ils résistent jusqu'au bout. Ils ne sont pas dans l'incrédulité. C'est de l'obscurantisme. Mais c'est dramatique pour leur vie. Et qu'est-ce qu'ils prennent comme alibi? Ben, vous l'avez bien dit, ils ont volé le corps de Jésus. Facile. Ce qu'on peut se rendre compte dans ce texte, c'est que c'est comme s'il y a deux voies, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude que j'appelle horizontale. Moi, ce qui est important pour moi, c'est le plancher des vaches, c'est ma vie sur terre, c'est mes ambitions, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient financières. Je fais faire tout ce qu'il faut pour que ma vie se passe bien et que je sois bien, que j'ai mon confort sur terre. Puis quand je serai vieux, vieille, ben j'en aurai assez, puis ce sera OK. Tout droit. Il y a ceux, toujours à l'horizontale, qui ont plein de problèmes et qui persévèrent dans leurs problèmes. Il y a ceux, toujours à l'horizontale, qui sont chrétiens, ou en tout cas dedans, mais celui-ci m'a fait trop mal, je ne lui pardonne pas. On est toujours à l'horizontale. Je ne fais pas grâce. Ou alors je continue de critiquer. Ou alors je n'entre pas dans un processus de sanctification. Je ne fais rien. Je suis à l'horizontale. Je résiste à la résurrection, à la compréhension de ce que c'est que la résurrection. Mais il y a l'autre partie. Et c'est à celle-là que nous sommes appelés. Il y a les personnes qui, tout à coup, reçoivent cette révélation du Saint-Esprit et qui se disent « Waouh, cette résurrection, mais elle est tellement impossible humainement parlant qu'elle me dépasse. Et moi, je reconnais que j'en ai besoin. Je reconnais que j'ai besoin d'une restauration, une résurrection de ma propre vie. J'ai besoin que ma mentalité soit ressuscité. J'ai besoin que mon cœur soit ressuscité. J'ai besoin que mon corps soit ressuscité. J'ai besoin que dans mes relations, il y ait une résurrection. J'ai besoin de la vie de Jésus. J'ai besoin de sa grâce, d'être capable de me faire grâce à moi-même et de faire grâce aux autres. J'ai besoin de m'élargir. J'ai besoin de comprendre que si mes pieds physiques sont sur la terre, mes pieds spirituels, ils marchent dans les cieux. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin d'entrer dans les plans du Seigneur. J'ai besoin d'aller chercher les promesses qui sont dans le ciel et de les amener sur la terre, que ce soit pour ma propre vie, que ce soit pour celle de ma famille, que ce soit celle de mes frères et sœurs, de ceux que je sais qui sont en souffrance. Je veux être efficace quand je prie. Je veux prier en étant ressuscité. Je ne veux pas prier en ayant une pierre qui scelle mon cœur. Ça ne sert à rien. Je veux la vie de Jésus-Christ en moi. Paul a dit en Philippiens 3, les versets 18 et 19, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Verset suivant, « Mais notre cité à nous, est dans les cieux, où notre droite cité, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Soyons de ceux qui sont ressuscités, mes amis. Et là où ça résiste, parce que c'est normal, on est humain, de toute façon, nous avons du pharisien en nous. Demandons au Seigneur son aide. Saint-Esprit, révèle-moi dans quel domaine il y a une pierre qui scelle mon cœur. Fais-moi comprendre et donne-moi une révélation de ta résurrection. Comment est-ce qu'elle impacte ma propre vie? Comment est-ce qu'elle me transforme? Comment est-ce que je peux me réjouir et dire « Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. » Parce que je l'expérimente au quotidien, jour et nuit. Seigneur, merci parce que tu es le ressuscité. Jésus, tu connais notre misère humaine. Tu sais exactement de quoi nous sommes formés. Tu sais que nous sommes poussière. Tu connais nos limites. Tu connais nos combats intérieurs. Mais c'est pour ça que tu es venu. C'est pour venir nous transformer. C'est pour nous rejoindre là où ça bataille. C'est pour nous rejoindre là où on s'est arrêté. Là où, où ça bloque sur notre route. Alors merci Seigneur, parce que tu es venu briser le pouvoir du péché, le pouvoir de la mort, le pouvoir de la peur, le pouvoir de la malédiction, le pouvoir de notre misère humaine. Et tu es ressuscité, tu es venu nous ressusciter, tu es venu nous faire entrer dans ta gloire, dans la réalité de ta présence, de ta puissance. Je te demande de nous donner un esprit de révélation qui nous fasse comprendre ta résurrection et ta résurrection en nous et notre résurrection en toi. Que nous puissions tous repartir avec cette conscience que nos pieds sont sur terre, mais que nos pieds spirituels et notre esprit sont dans les cieux avec toi, pour toi et pour tous ceux que tu nous as confiés. Gloire à toi, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.